Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Là-bas, ils ont appris des métiers. Ils étaient tonneliers, ils étaient maçons, ils étaient charpentiers. Et c'est une nouvelle forme de bourgeoisie qui va s'installer.
Ces ouvriers qualifiés, ces chefs d'entreprise, ces exploitants agricoles noirs étaient pour l'essentiel des agoudas, des anciens esclaves affranchis revenus en Afrique après l'abolition qui se sont associés aux négriers, ceux-là même qui les ont vendus, pour former une communauté puissante. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Agouda du Bénin. Ces agoudas qui sont plus instruits et qui ont adopté les manières de blanc séduisent. Il est même de bon ton pour les hommes d'épouser une agouda. C'est un signe de réussite dans la société béninoise de cette période du XXe siècle qui démarre.
Pour montrer un peu qu'on est, on a une bonne classe dans la société, c'est bien de marier une fille de la famille, d'une famille agouda.
Professeur Aminu Taoufiki, ancien vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi.
Pour beaucoup de raisons, mais les unes par exemple, c'est elles savent très bien faire à manger, elles tiennent proprement la maison, bon, elles savent également s'occuper de leur homme. Vous voyez ? Donc pour montrer que vous êtes un peu prestigieux dans votre société, particulièrement au Dahomey et à Port-Novo, il faut avoir parmi, malheureusement, vos épouses, une au moins qui soit agouda.
Quand on est étranger,
Jérôme Carlos,
à cette communauté, et que vous voulez épouser une Carlos, une d'Almeida, une d'Aconcesao, on vous soumet à un examen. Ah oui, oui, oui. Alors il y a un jury qui se constitue, et vous êtes là parce que vous n'êtes pas de la communauté. On vous fait franchir un pas. C'est une épreuve d'initiation. Est-ce que vous mangez, dans votre communauté de base, du fromage ? Est-ce que vous utilisez à table une fourchette ? Est-ce que vous dormez sur un lit ? C'est autant de questions qu'on posait à l'impétrant, en quelque sorte. Et c'est au bout du compte que le jury délibère et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas l'entrée dans la communauté de celui-là qui veut faire un saut vers nous.
Les agoudas, à ce moment-là, composés par les descendants des négriers, les esclaves revenus, leurs descendants et leurs esclaves, sont à l'origine de pratiquement toute l'activité économique moderne et de la pénétration de la culture occidentale dans la région. Par ailleurs, ils représentent le futur dans la mesure où leur style et leur code de vie ont fini par s'imposer. Cette communauté respectée, riche, la plus alphabétisée, la plus instruite, va évidemment avoir les faveurs de l'administration française lors de son implantation dans le pays. C'est elle qui va être son auxiliaire. Elle joue un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir colonial et les autochtones. L'administration française, sans les reconnaître comme étant au même niveau que les Européens, admet qu'ils sont tout de même plus évolués que les autres Africains. Elle va même leur accorder un statut spécial.
Et je peux vous dire que, avant l'arrivée des Français,
Francisca de Medeiros Patterson, arrière-petite-fille de Francisco de Souza,
au Dahomey d'alors et Bénin d'aujourd'hui, il y avait une grande civilisation afro-brésilienne. Il y avait déjà des gens qui avaient des formations. Tous ceux qui sont devenus maçons, qui sont devenus entrepreneurs, tous ceux qui sont menuisiers, qui ont construit des maisons, tout cela existait avant l'avènement de la France, avant qu'il y ait la conquête du Dahomey.
Le colonisateur va préférer avoir des députés.
Professeur Nourini Tidjani Serpos, ancien président du conseil exécutif de l'UNESCO.
Élu et contrôlé plutôt que ces gens qui débarquent du Brésil et qui veulent très rapidement dire, mais
nous sommes vos égaux.
Vous dites que c'est la civilisation, bon, on l'a. Vous dites qu'il faut parler votre langue, on sait faire. Les métiers, nous les avons. Donc maintenant, on se présente en intermédiaire. Non, on ne va pas vous laisser faire. Et pendant les guerres, ce sont ceux-là qui vont servir d'intermédiaire avec dans l'armée du général Dodds pour aller combattre Béhanzin.
Cette communauté a joué un rôle important.
Jérôme Carlos, journaliste, patron de Cap FM, une des principales radios de Cotonou au Bénin.
Dans la colonisation, les premiers lettrés, c'était dans leur rang. Donc ils ont été des auxiliaires zélés, pour certains, dans la colonisation du Bénin. Ils étaient des maîtres d'école, ils étaient les interprètes dans les tribunaux et ils assistaient en quelque sorte, dans une sorte de participation, un peu ce qu'on appellerait collabo.
Les relations entre les Agoudas et l'administration française vont connaître plusieurs épisodes. Lorsqu'au lendemain de la conférence de Berlin, où les puissances partagent l'Afrique en 1884, le Dahomey devient une colonie française, les Afro-Brésiliens qui constituent une élite déjà formée, plus au courant de la civilisation occidentale, vont être les interlocuteurs, les partenaires désignés. Ils vont d'abord être les alliés des Français qui les utilisent comme des intermédiaires vis-à-vis des autochtones. Les grandes familles de Porto Novo, par exemple, vont même participer directement à l'effort de guerre contre le roi Béhanzin. Ignacio Parezo, l'important notable de Porto Novo, va même être le seul Africain à obtenir un siège au conseil de la colonie dès son installation. Ils vont bénéficier de la citoyenneté française. La France va même officialiser ce particularisme dans le langage. On dit « monsieur » à un Européen, « le sieur » pour un Afro-Brésilien et le nommé pour le sujet dahoméen. Mais la relation va connaître une seconde étape, celle de l'éloignement. Les Français commencent à prendre possession du pays en écartant les Agoudas des activités économiques les plus rentables. Ce déclin commence d'abord par le commerce de gros, et peu après celui du détail, placé sous le monopole des sociétés françaises. Les commerçants Agoudas les plus importants sont alors en faillite.
Quand l'administration coloniale est arrivée, elle s'est servie de ces gens-là.
Luc Nyakadja, architecte et ancien ministre béninois.
Pour étendre son influence. Mais après, parce qu'il y avait comme une sorte d'émergence de bourgeoisie locale contestataire et dont beaucoup venaient des rangs de ces gens-là. Forcément, l'administration a travaillé à amoindrir leur influence.
L'influence sociale et politique des Afro-Brésiliens amorce véritablement son déclin à partir de 1946, au moment où la vie politique et économique du Bénin change radicalement avec le nouveau système de représentation politique à l'Assemblée territoriale et à l'Assemblée nationale française.
Les Anglais ne vont pas trop piper, mais très rapidement, les Français ont dit « oulala ».
Professeur Nourini Tidjani Serpos, ancien haut fonctionnaire béninois.
Mais ils vont mettre en péril le commerce avec Bordeaux, avec Nantes, là, si on leur donne ce qu'ils demandent, c'est-à-dire être les porte-parole, être ceux qui vont servir d'intermédiaire entre les autochtones et nous, très rapidement, ils vont susciter la révolte au sein des colonisés.
La culture française a laminé très fortement.
Jérôme Carlos, journaliste béninois.
Cette culture Agouda, on en garde quelques vestiges, c'est des reliques en quelque sorte, mais c'est aussi ce qui reste et qui doit garnir notre patrimoine culturel en quelque sorte. Le déclin a commencé depuis 1945, quand le pays s'est ouvert pour la première fois aux élections libres, en 1945. Il fallait désigner des députés béninois pour l'Assemblée nationale française. Un Agouda s'était présenté, Casimir d'Almeida, contre un fils du terroir, Sourou Migan Apiti. Parce que les Agoudas ont estimé que pour aller assumer une mission aussi importante, c'est un Agouda qu'il faut. Mais le Casimir d'Almeida a été battu à plate couture. Je crois que c'est un grand moment historique pour marquer un peu le déclin de cette communauté-là. Ils n'ont pas pu, quand le pays s'est ouvert aux grands enjeux politiques, ils n'ont pas pu se positionner. Le pays profond a réagi. Vous êtes là, on vous accepte, mais ne dépassez pas une certaine frontière. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter.
Avec l'indépendance, les Dahoméens vont leur reprocher d'avoir collaboré, d'avoir servi le colonisateur, parfois avec zèle.
Je me sens d'abord Yoruba.
Gilbert Montero, membre de la communauté Agouda.
Je me sens d'abord Yoruba. Mon aïeul, qui est resté au service du colon, nous a légué beaucoup de choses. Nous avons également ce patrimoine-là qu'il faut conserver. Donc, nous sommes Yoruba, certes, mais nous devons beaucoup de choses aux Portugais.
L'une des raisons du déclin de cette communauté qui a fortement transformé l'économie vient également de l'intérieur. Les Yoruba, qui ont souvent vécu dans les familles Agouda, qui ont appris auprès d'eux des métiers et le commerce et qui vont désormais devenir de véritables concurrents.
À l'époque coloniale,
professeur Aminu Taoufiki, ancien vice-recteur de l'Université nationale d'Abomey-Calavi.
Les policiers, les facteurs, les douaniers et autres se déplaçaient en vélo. Donc, pour faire venir tous ces vélos depuis la France, on ne pouvait pas les amener monter. Donc, les pièces étaient dans des grandes caisses et il y avait effectivement de Yoruba, qui était ce qu'on appelait réparateur de vélos. C'est eux qu'on invitait, et ils venaient aussi avec leurs équipes, pour monter à partir des différentes pièces les vélos. Bon, ça leur faisait une sorte de campagne. Deux, trois fois, ils finissent par amasser un peu de sous, et ils font justement le commerce avec ça. De la même manière, les couturiers et les tailleurs, c'était des Agoura au départ. Il y a des noms prestigieux, Dacruz, par exemple, qui n'habite pas loin d'ici, qui était un des grands couturiers. Moi, j'ai fait le lycée Vito Ballo, puis ensuite qui est devenu le lycée Béanzin. Quand on arrive en classe terminale, on vous fait un costume. Parce qu'on présume que vous serez bachelier et qu'on n'est pas sûr que vous ayez les moyens de vous acheter un costume avant d'aller en France. Donc, ces grands couturiers-là étaient pour la plupart des Agoura. Mais ils ont eu des apprentis Yoruba qui ont appris à côté d'eux et qui, petit à petit, commençaient à les suppléer.
Les enfants d'Agouda n'allaient pas à l'école.
Professeur Nureni Tidjani Serpos, ancien haut fonctionnaire béninois.
C'était la jeunesse dorée. Ils avaient tout. Et ceux qui n'avaient rien étaient ceux qui allaient à l'école. Ceux qui ont compris que apprendre le français ou apprendre l'anglais, c'était une sorte, ça créait une sorte d'osmose et vous émergiez. Et après le commandant de cercle, c'est vous qui... Puisqu'ils sont obligés, les deux sont obligés de passer par cela pour se comprendre. Et par conséquent, les gens du peuple, c'est ce qu'ils traduisaient aux blancs que lui comprenait, et c'est ce qu'ils donnaient aux chefs qui n'avaient pas envoyé leurs enfants, qui comprenaient.
En réalité, au Dahomey, dans cette seconde moitié du XXe siècle, l'étoile Agouda n'est plus aussi lumineuse qu'au cours des siècles précédents. La fortune a changé de main.
Le statut social est très simple à déterminer aujourd'hui.
Professeur Nureni Tidjani Serpos.
C'est l'école. L'école a joué un rôle incroyable. Et ce n'est pas seulement avec les familles Agouda. Quand le préfet, le sous-préfet qu'on appelait... commandant de cercle, envoyait chercher les enfants, ce n'était pas les enfants du peuple qu'on envoyait chercher. C'était les fils de rois, les fils de chefs, les enfants d'Agouda. Le colonisateur voulait se saisir de toute l'engeance, de toute la descendance de l'élite. Le colonisateur ne voulait pas former des gens issus du peuple. Mais ces chefs-là n'envoyaient pas leurs propres enfants. Discrètement, on envoyait les enfants du peuple, les serviteurs, aller à l'école. Dans les zones musulmanes, on préférait envoyer les enfants qui étaient à l'école coranique et envoyer les enfants des serviteurs vers l'école occidentalisée. Le résultat, c'est que au bout d'un moment, ceux qui vont se saisir de l'éducation, de l'école et autres, c'est ceux pour qui l'école n'était pas destinée. Vous devez vous souvenir de Federbe au Sénégal, qui avait créé l'école, d'abord était appelée l'école des otages, et puis après c'est devenu l'école des chefs, des fils de chefs. Eh bien, ce n'est pas les fils de chefs que les grands marabouts ont envoyés. Et il y a eu une sorte de révolution qui s'est opérée et qui a fait que le moment venu, ceux pour qui l'école était destinée étaient devenus des auxiliaires.
Beaucoup d'Autochtones ont été à l'école.
Jérôme Carlos, membre de la communauté Agouda.
Et sont devenus instituteurs, agents de l'administration, médecins africains, comme on les appelait, Ponti, au Sénégal, formaient aussi des cadres. Si bien que la petite suprématie qui positionnait favorablement cette communauté a fini aussi par s'effriter. Donc on est rentré dans les rangs, en quelque sorte. On dit qu'on est béninois, d'abord et avant tout, nous nous réclamons de cette citoyenneté-là, on est béninois, mais par nos noms, par un certain nombre, hein, de souvenirs, on se réclame, n'est-ce pas, d'une communauté particulière. Mais ce n'est plus quelque chose de... Les murs se sont lézardés depuis longtemps.
Et les uns et les autres se sont rapprochés, favorisant un formidable métissage.
Ma mère est née d'Orego, et donc elle est d'Orego de Ouida.
Luc Nyakadja, architecte et ancien ministre béninois.
Et j'ai beaucoup de titia, ce sont les tantes, et de titi ou les oncles. J'en ai connu beaucoup qui sont dans les Demeduros et autres. Et moi, je suis né à Porte-Nouveau. Je me sens à Gouda.
Je crois qu'à partir de ma génération...
Jérôme Carlos, journaliste.
Et la frontière, je la connais en ce qui me concerne. C'est quand on a voulu me donner pour épouse une des filles, d'un ami à mon papa, une da Silva. J'ai dit non. Et pour bien marquer, n'est-ce pas, la rupture... Je suis allé régler mon problème au Sénégal.
Je me sens métisse à Gouda, si vous voulez.
Professeur Aminou Taoufiki, ancien vice-recteur de l'Université nationale d'Abomey-Calavi.
Je me sens d'abord Yoruba et ensuite à Gouda. Donc mes parents paternels sont Yoruba venus d'Oyo et mes parents maternels, bon, eux aussi déjà, ils constituent un peu des métisses. Ma grand-mère, c'est elle qu'on peut... considérée comme vraiment celle qui représente la génération de Agouda. Parce qu'elle est née au Brésil et baptisée sous le prénom Valentina. Mais quand ils sont revenus, elle et son papa, au Dahomey, le papa s'est converti à l'islam et elle aussi est devenue Fatima.
Mon ancêtre a pris des autochtones d'ici.
Théophile Gomez, président de la cellule communautaire des Agouda de Ouida.
Donc, et plusieurs. C'était tout un troupeau, c'était toute une armée qu'il a fondée. Mais malheureusement, il n'y a eu que deux enfants qui ont survécu de tout ce troupeau-là. Il y a eu Marcelino et Cosme.
Et l'amour étant sans frontières, moi je ne pense pas que personne pourra s'opposer à l'union de ceux qui... Étant béninois qui sont restés.
Sa Majesté Djalani Agoli Agbo, roi d'Abomey.
Et par la force des choses, à l'étranger, revenant chez eux, ne peut pas épouser leur soeur laissée sur le terrain. Moi, je ne crois pas encore, à moins qu'on m'apporte le contraire.
L'actuel roi Djalani Agoli Agbo, son épouse est une Agouda.
Gabin Djimassé, directeur de l'Office du tourisme d'Abomey.
Son épouse. Sa première épouse officielle avec qui il s'est marié à l'église et à l'état civil, c'est une Agouda.
Ben moi, ma mère, son nom de famille, c'est Dakon Sessa.
Professeur Nourini Tidjani Serpos.
Et elle en était fière d'être Dakon Sessa. Et nous, moi, mon père, quand mon père se fâchait, il disait, quoi Dakon Sessa, ça veut dire quoi? Tu ferais mieux d'être appelé Da Agonsa. Il aimait africaniser le nom.
S'il se moque, s'il ironise sur ce patronyme hérité du passé, c'est aussi et surtout parce que la communauté Agouda a perdu de son prestige. Et le revers de fortune qu'elle connaît va avoir des conséquences considérables sur l'important patrimoine architectural qu'elle a érigé un peu partout dans la région. Un patrimoine considérable en péril. Vont-ils parvenir à le sauver? Quelles relations ces Agoudas, qui portent des noms hérités pour la plupart de l'esclavage aux Amériques, entretiennent-ils avec le Brésil, dont ils conservent une partie de la culture? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Agouda du Bénin, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
D'Afrique à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
crois qu'à partir de ma génération...
Jérôme Carlos, journaliste.
Et la frontière, je la connais en ce qui me concerne, c'est quand on a voulu me donner pour épouse la fille d'un ami à mon papa, une da Silva. J'ai dit non. Et pour bien marquer, n'est-ce pas, la rupture, je suis allé régler mon problème au Sénégal.
L'actuel roi, déjà Yagouli Agou, son épouse c'est une Agouda.
Gabin Djimassé, directeur de l'office du tourisme d'Abomey.
Son épouse, sa première épouse officielle avec qui il s'est marié à l'église et à l'état civil, c'est une Agouda.
Ben moi, ma mère, son nom de famille c'est Dakon Sessa.
Professeur Nourini Tidjani Serpos.
Et elle en était fière d'être Dakon Sessa. Et nous, moi, mon père, quand mon père se fâchait, il disait quoi Dakon Sessa? Ça veut dire quoi? Tu ferais mieux d'être appelé Da Agonsa. Il aimait africaniser le nom.
S'il se moque, s'il ironise sur ce patronyme hérité du passé, c'est aussi et surtout parce que la communauté Agouda a perdu de son prestige. L'étoile de cette communauté constituait les affranchis revenus du Brésil et les anciens négriers qui tenaient le haut du pavé au Dahomey, grâce d'abord à la traite négrière, puis à l'agriculture et au commerce, semble pâlir. La posture Agouda qui séduisait ne garantit plus forcément de l'admiration des autres. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Agouda du Bénin. Avec le déclin qu'elle connaît en cette seconde moitié du XXe siècle, avec le revers de fortune qu'accuse la communauté Agouda du Dahomey, les conséquences vont être considérables sur l'important patrimoine architectural qu'elle a érigé un peu partout dans la région. Luc Nyakadja, architecte béninois.
Le patrimoine bâti est vraiment en péril. C'est triste. Le quartier Brésil aurait été un quartier dans lequel la ville et le Bénin auraient gagné à amener des gens qui viendraient pour faire du... qui sont intéressés par l'histoire, mais il n'en est pas resté grand-chose.
Seules quelques-unes vont résister au temps, celles dont les propriétaires n'ont pas connu la faillite, comme la résidence des Patterson ou encore celle de Karim Urbain da Silva à Porto Novo, qui est devenue un musée où se raconte l'histoire du Bénin, mais également de l'Afrique entière. Une maison entretenue dans l'état où elle était du temps de la splendeur de la communauté Agouda, avec ses meubles, avec ses masques, avec les chambres et les lits laissés en l'état. Avec aussi les vestiges, les éléments d'apparat d'une certaine époque. Un lieu qui aura servi à de nombreuses et prestigieuses rencontres du fait de la notoriété de son propriétaire, qui aura traversé à son tour tous les grands bouleversements du Dahomey et du Bénin ensuite. Karim Urbain da Silva reste l'une des principales figures de cette communauté Agouda. Autre famille qui aura su traverser ce déclin des Afro-Brésiliens du Bénin, celle de Souza, qui continue de jouir d'un important prestige à Ouida. Ce n'est qu'au lendemain du tournage de ce document que la célèbre place Tchatcha, qui se situe à l'entrée principale de la résidence familiale, a été débaptisée par des autorités et a retrouvé son nom initial de place des enchères. Mais les héritiers successifs de Francisco de Souza, qui au fil des siècles, au fil des métissages, ont pris la couleur locale, ont su garder le prestige de la famille qui occupe toujours une place prépondérante dans la ville de Ouida. Ces vestiges ne cachent pas le mal qui ronge cette architecture afro-brésilienne. Ces maisons demandent un réel entretien.
C'est des maisons qui, encore une fois, à cause de l'indivision...
Luc Nyakadja, architecte béninois.
...ont été mal entretenues. Comme il n'y a pas eu une politique patrimoniale pour préserver cela, on a perdu beaucoup.
Sans argent, la grande majorité des descendants des grandes familles Agouda n'a pas les moyens pour protéger ces bâtisses de taille. Surtout que leur entretien coûte cher.
Ça me peine beaucoup. Les raisons sont nombreuses. D'abord...
Luc Nyakadja.
Ces raisons participent du mode de construction. C'est des maisons qui ont été construites en terre et souvent en briques cuites avec des mortiers de ciment. C'était nouveau à l'époque dans cette partie du monde. C'était nouveau. Mais il y avait beaucoup de boiseries et les planchers parfois étaient faits aussi avec des bois comme le rognier qui était durable mais qui avait besoin d'un certain entretien. Mais quand les silophages ont prospéré, surtout parce que les maisons étaient abandonnées, c'était devenu vermoulu par endroits et parfois les planchers, les plafonds ont cédé et l'ensemble des menuiseries extérieures aussi ne fonctionnaient plus. Les maisons étaient malheureusement en indivision, donc personne ne voulait faire la dépense. Et il y a aussi l'effet de mode qui est passé. Ce n'était plus vraiment ce qui exprimait, je sais pas, la réussite sociale. Avant, c'était le cas, mais cela a changé vers le milieu du XXe siècle.
Profitant du manque de moyens de certaines familles, quelques hommes d'affaires importants, plus fortunés, ont choisi de s'acheter quelques-unes de ces bâtisses chargées d'histoire.
À Porte-Nouveau, on trouve les nouvelles fortunes
Luc Nyakadja
de la fin du 19e, début 20e siècle, qui ont acheté ces maisons-là, parce que ça faisait bien d'habiter dans ces maisons-là.
Il y a le haut du panier qui s'en sort, mais il y a aussi le bas du panier qui se paupérise énormément.
Achille Patterson, membre de la communauté Aouda.
Et vu la dilution qu'il y a de ces familles dans la population béninoise actuellement, dans les familles, je dirais, dans l'indigénat, il y a très peu de gens qui veulent reprendre la suite, soit pour réhabiliter ou bien pour conserver. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans cette mentalité, moi je le vis tous les jours, parce qu'on est à Porto-Novo, depuis 2003, il y a sur un programme de 10 maisons qui devait faire un programme pilote qui devait servir à la vitrine de ce qu'on appelle la réhabilitation du tissu afro-brésilien, on n'en est qu'à 2, vous voyez. Pourtant, il y a 10 maisons qui ont été taguées.
Dans le cas de la famille de Hassan Bourema, son père qui est venu du Nigeria et qui a travaillé aux côtés des Aouda a bâti sa propre maison de style afro-brésilien. Il insiste sur le fait qu'il ne l'a pas achetée.
Quand on parle de moi acheter, c'est trop dit. Ce n'est pas acheté. Il a construit. Dans le quartier, c'est la première maison qui fut construite et que tout le monde vienne voir ça. On demande, mais le plan là, où tu as trouvé ce plan? Il dit non, ne me demande pas, parce que j'ai beaucoup voyagé. On a vu le plan, c'est extraordinaire. Nous qui sommes des enfants, on voit que c'est bon.
Mais l'immense majorité de ces bâtiments qui ont fait la fierté de toute la sous-région où ont vécu les Afro-Brésiliens sont en très mauvais état.
Par exemple, les boiseries.
Luc Nyakadja, ancien ministre béninois.
C'est fragile, ça coûte cher à entretenir. Donc très vite, les héritiers, ceux qui ont eu envie et qui n'avaient pas les moyens d'entretenir ces boiseries-là, les ont remplacées par ces choses. Parfois, on voit on a enlevé les lames fixes en bois, on les a remplacées par ce qu'on appelle communément des nacos. Ça a dénaturé, ça a transformé de belles maisons en de vrais bruits visuels dans l'architecture de la ville. Et c'est vraiment dommage.
Si tous sont unanimes pour reconnaître l'originalité de cette architecture afro-brésilienne, si elle constitue l'une des richesses du Bénin, elle semble très peu bénéficier d'un véritable projet de réhabilitation de la part des autorités. Pourtant, les nouveaux propriétaires, malgré l'absence de moyens pour réhabiliter, ne peuvent les détruire.
Par manque de financement.
Achille Patterson, membre de la communauté Aouda.
Je dirais national, manque de financement international et manque d'intérêt aussi des gens qui ne comprennent pas le bien fondé de cette réhabilitation.
Hassani Bourema, membre de la communauté Aouda et Yoruba de Ouida.
Nous avons pensé que nous allons... Les gens nous disent, il ne faut pas casser, c'est très joli, il ne faut pas casser.
L'architecture dite afro-brésilienne, qui était l'un des symboles de leur primauté, de leur différence, est en état de délabrement avancé. Ils n'ont plus les moyens de l'entretenir. Progressivement d'ailleurs, ces bâtisses passent entre d'autres mains. En fait, quelques-uns de ces bâtiments coloniaux abritent aujourd'hui des services de l'administration publique, tels l'ancien palais du gouverneur Bayol, actuel siège de l'Assemblée nationale, un statut qui contribue dans une moindre mesure à leur sauvegarde. Ce n'est en revanche pas le cas des maisons afro-brésiliennes qui suscitent moins l'intérêt des autorités du fait de leur statut de propriété privée. Luc Nyakadja, architecte.
Il faut régler le problème de l'indivision. Il faut amener les familles soit à s'entendre pour préserver. Donc, il faut classer ces bâtiments-là. Il faut dire, ça a un intérêt patrimonial qui va au-delà de la famille, qui est un intérêt patrimonial pour la ville, ou même pour la nation. Et on apporte les éléments d'incitation pour entretenir, parce qu'on sait que cela peut représenter un intérêt culturel pour la ville, un intérêt touristique pour la ville.
Si vous voulez, c'est un paradoxe.
Achille Patterson, membre de la communauté Aouda.
Parce qu'il y a des familles qui sont pour, à vouloir céder. Mais comme on dit, ce n'est pas la peine de céder un bien qui appartient à une famille qui a quand même une histoire. Par là où nous cherchons à travailler, c'est de faire un bail à reconstruction ou à réhabilitation.
La Gouda, c'est tout d'abord la rencontre.
Professeur Noureni Tidjani Serpos, ancien président du conseil exécutif de l'UNESCO.
La rencontre que on a toujours appelé la rencontre des deux mondes, mais moi, que j'ai défini comme la rencontre de trois mondes. C'est-à-dire les bateaux venant de Nantes, s'arrêtant ici, prenant les esclaves et continuant sur l'Amérique. C'est d'abord ce triangle-là. Et une fois qu'on l'a défini comme triangle, on se pose maintenant la question de ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
La majorité, sinon une bonne partie de cette masse, ne pouvant plus rester ici, s'était retourné d'eux-mêmes.
Roi Dagbo Ounouna II, chef suprême du Vaudou.
S'était retourné d'eux-mêmes.
Peut-être pas la majorité au regard des documents administratifs brésiliens de l'époque et de ceux de la marine, mais un nombre considérable est retourné dès le 19e siècle au Brésil. L'immense majorité est restée sur le continent, dans cette région du golfe du Bénin. Milton Gouran, chercheur brésilien, auteur de Les Agoudas.
On pose toujours la question du retour, du retour. Parce qu'on a eu les flux, l'Afrique vers le Brésil, et le reflux, ça veut dire le retour d'une certaine partie des Africains esclavisés au Brésil qui ont acheté, ont conquis la liberté et qui ont retourné en Afrique. Et donc, ce deuxième retour, ça veut dire de ces gens-là qui sont retournés au Bénin et qui auraient retourné encore une fois au Brésil, ça, je ne connais pas. Je ne crois pas, hein. De toute façon, si jamais l'un ou l'autre est retourné au Brésil, c'est un cas particulier, ce n'est pas un mouvement de retour.
Qu'est-ce qui reste de palpable ?
Professeur Noureni Tidjani Serpos, ancien vice-président du conseil exécutif de l'UNESCO.
Il y a tout un patrimoine d'abord, un patrimoine bâti qui est là et que nous ne prenons pas assez de temps pour maintenir, pour entretenir. Il y a des liens très forts. Au niveau culturel, entre les intellectuels brésiliens et nous. Mon pays a commis ce que j'appelle une erreur. Dans les lycées et collèges, l'anglais est la deuxième langue, mais très souvent, c'est l'espagnol la troisième langue. Nous devrions prendre plutôt le portugais comme troisième langue. Apprendre le portugais, maîtriser cela. C'est le Nigeria, au contraire, qui fait ça maintenant. Et vous restez là, les bras ballants, vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce petit Bénin-là.
On ne peut pas distinguer qui est un Gouda venu du Brésil. Et ceux qui sont venus.
Francisca de Medeiros Patterson, membre de la communauté Agouda, arrière-petite-fille de Félix Francisco de Souza.
On se complète. On est des amis, on est des alliés.
C'est tout un mélange.
Théophile Gomes, président de la cellule communautaire des Agouda de Ouida.
Et on ne peut plus faire de différence au point d'offusquer, de frustrer. Certains, comme vous l'avez dit, il y en a qui sont revenus du Brésil, qui sont partis d'ici. Ils sont revenus du Brésil, ils sont revenus chez eux, c'est normal. Il y en a qui sont donc directement venus du Portugal, du Brésil pour venir ici. Et d'autres, avec la culture Agouda, ont pris des noms à résonance Agouda. Tous ceux-là font partie des Agouda.
Au fil des décennies, le melting pot, le métissage s'est accentué. Les mariages se sont multipliés. Mais les patronymes ont survécu et se sont étendus sur l'ensemble de la région. Il est devenu difficile de reconnaître un Agouda par la couleur de sa peau.
Je suis restée dahoméenne, à part entière, sans aucun complexe.
Francisca de Medeiros Patterson, arrière-petite-fille de Souza.
Je n'ai pas eu de complexe, je suis dahoméenne et béninoise.
Cette histoire ne me dit plus rien.
Théophile Gomes, arrière-petit-fils de négrier, président de la cellule communautaire des Agouda de Ouida.
D'autant plus que je n'en suis pas l'auteur, peut-être que je suis aussi un sujet, car justement, plusieurs fois, votre question revient. Je porte fièrement le nom Gomez parce que c'est de ça que je vis. Comme on peut être fièrement Foucard, comme on peut être fièrement Ogou. C'est mon nom, c'est le nom qu'on m'a donné, je le porte et je le porte fièrement. Et je voudrais qu'il soit justement bien porté par moi-même et par mes enfants et le reste, pour que ce ne soit plus le passé qui compte, mais le présent et l'avenir. Il est vrai que l'on fonde souvent l'avenir sur le passé et sur le présent. Mais si le passé doit toujours revenir et peser sur le présent ou anéantir peut-être le futur, il vaut mieux en faire gommer ce passé-là et aller de l'avant.
Il n'est pas impossible de voir quand quelqu'un d'Abomey, non, de Ouida par exemple, veut se marier avec quelqu'un dans une région où on allait faire ces razzias là.
Luc Nyakadja, ancien ministre béninois.
Que ce soit au niveau du plateau Adja, ou que ce soit dans la vallée de l'Oumé, que les gens s'interrogent et disent, vous êtes sûr que si c'est le mari qui vient de Ouida par exemple et veut se marier sur le plateau de Adja ou dans la vallée, on va lui dire, mais vous êtes sûr que vos parents vont être d'accord? Bon, les jeunes, eux, ils ne regardent plus ce genre de choses, ils n'y pensent même plus. Mais vous êtes sûr que ça va se passer? Vous êtes sûr que ça va être accepté? Dans certains secteurs, les gens veulent vraiment savoir d'où vous êtes pour savoir si on peut vous faire confiance. Mais je pense qu'on n'a pas assez fait ce travail qui consiste à dire « regardons » et que nous écrivions l'histoire, non pas en voulant justifier quoi que ce soit, mais en mettant les faits et en montrant comment est-ce que cela éventuellement influence les comportements d'aujourd'hui.
C'est très probablement ce qui a suscité le festival Gospel et Racines, organisé il y a quelques années par le Béninois Simon Adoveland, avec le soutien très actif du président béninois Mathieu Kérékou. Un festival qui avait pour vocation la réconciliation et qui a réuni à Cotonou, Ouida et Porto Novo de nombreux Noirs de la diaspora, du Brésil, des Antilles et des États-Unis d'Amérique. Une démarche qui illustre bien le fait que malgré le temps qui s'est écoulé, malgré le fort métissage qui s'en est suivi, il existe encore, ça et là, quelques cicatrices encore vivaces de cette traite des hommes. Si cette architecture afro-brésilienne qui a tant séduit et qui est le symbole d'une partie de l'histoire singulière de cette région ne semble pas susciter un grand intérêt de la part des autorités, faute de moyens probablement, que devient la culture Agouda? Sont-ils réellement intégrés dans la société béninoise? Les blessures du passé sont-elles cicatrisées? Et puis quel rapport entretiennent les Agouda avec le royaume d'Abomey? Quel autre rapport entretiennent-ils plusieurs siècles après avec le Brésil d'où beaucoup d'entre eux sont partis? Et les descendants des négriers venus du Portugal, de la Grande-Bretagne et de France? Agouda eux aussi, sont-ils définitivement acceptés? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Agouda. Mais évidemment, en attendant, vous pouvez naturellement réécouter ces émissions sur le site des RFI à la rubrique « Les émissions » ou encore sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite des Agouda du Bénin. Restez à l'écoute des programmes des RFI et à très vite.